C'est parti.
C'est que comment team.
Vas-y, commence.
Bah oui, d'accord, je vais dire un mot.
Interview de Valérie Simon, co-organisatrice de la Radicale Queer Semaine et membre du collectif Politicu. Enregistrée à Montréal, au Québec, en mars 2012.
J'ai juste 22 ans, donc c'est comme il y a 3 ans que en fait, j'ai commencé à militer parce que en fait, j'ai fait comme deux avec le cégep. Donc le cégep, c'est entre le secondaire et l'université en fait. Puis après avoir fini le premier, comme, je suis retournée au cégep en informatique. Puis là, dans ce nouveau cégep-là, il y a eu une asso LGBT qui s'est créée. Donc c'est comme à cause de ça que j'ai commencé à militer. Puis c'était vraiment, c'est comme formateur parce que genre, il y avait beaucoup de trucs à faire. Puis comme les profs étaient vraiment, les supportaient beaucoup. Mais en même temps, comme, c'était dur de mobiliser les élèves puis comme faire des trucs. C'est que ça investissait beaucoup de mon temps. Puis en même temps, genre, j'ai découvert la RQS à travers un article dans le journal. C'est que, moi et une de mes amies, on est allé en 2010, notre première RQS, puis on a vraiment adoré. Puis c'est à cause de ça que j'ai joint Politicu, parce qu'il y avait l'action pour le droit des personnes trans par rapport au changement de nom et la stérilisation, en fait. C'est que c'est par cette action-là que j'ai joint Politicu. Donc tout est lié à la RQS.
La Radicale Queer Semaine.
La Radicale Queer Semaine, c'est quand même mon moment préféré de l'année. Comme... Je prends congé, genre, je ne fais que ça. Mais comme la première année, comme quand je suis allée avec une de mes amies, en fait, on est allé à tous les ateliers. Comme. On avait de l'école, on allait à l'RQS, on rentrait chez nous à genre 1h du matin tous les jours, puis on retournait à l'école. C'était la folie, comme. C'était vraiment la folie. Mais puis la première année, c'était vraiment enrichissant parce qu'on était comme un peu genre les deux seuls radicales de. Notre groupe de personnes LGBT à l'école, genre dans le groupe. Fait que, tu sais, c'était un peu comme, quand on était dans le groupe, on était toujours comme en train de discuter des trucs. Puis là, on arrive à l'RQS, puis là, on était comme finalement, genre, challengé, puis comme on apprenait de nouveaux trucs. Je sais que c'était bien. C'était vraiment cool pour cette première année. Ensuite, une fois que t'es comme dans le truc, tu peux voir des ateliers comme toute l'année longue à Montréal. Tu peux comme. Il y a toujours des festivals, il y a toujours des ateliers, il y a toujours des trucs qui se passent, puis c'est souvent gratuit, accessible. Il suffit juste que tu genre, sois sur Facebook ou genre sur une ou deux listes de mails, puis tu reçois à peu près toutes les informations qui t'intéressent, en fait. Mais comme, ce qui est vraiment spécifique à la Radical Queer Semaine, c'est vraiment comme d'avoir un espace pendant 10 jours, puis d'utiliser cet espace, en fait. Puis en fait, les deux éditions de la précédente dans un espace différent, comme beaucoup plus... Comme, convivial et grand, donc en fait les gens comme venaient puis faisaient juste rester pendant des heures, ça permettait comme de rencontrer des gens puis de se faire des amis puis de comme discuter aussi, d'avoir des discussions vraiment cool sans comme être dans le stress. C'est que il y avait ça. Donc la première année c'était plus comme waouh, c'est super cool. La deuxième année, comme les ateliers m'intéressaient moins, puis c'était plus un truc de une nouvelle personne que j'avais rencontrée, j'étais comme faut que tu viennes à l'RQS, c'est vraiment cool, puis genre. Donc, c'est un peu plus comme de propager comme le truc, puis de toutes les nouvelles personnes que je rencontrais, de leur dire que, comme, en mars, qu'est-ce que tu fais? Tu vas à la RQS? Puis ça aussi, ça a bien marché. Puis cette année-là, c'était plus un truc de. J'ai fait du bénévolat pendant toute la semaine, puis j'étais juste dans l'espace, à chiller avec des gens. Puis là, cette année, c'était la première fois que j'étais sur le collectif d'organisation. Donc, en fait, la RQS, on l'a préparé comme à partir du mois de septembre. En septembre, on se rencontrait à chaque deux semaines, parce qu'on fait des levées de fonds, en fait. Donc, c'est comme, au début, c'est à chaque deux semaines pour, genre, qu'est-ce qu'on fait, quand on fait les levées de fonds. Puis ensuite, après, c'est à chaque semaine pour, genre, préparer les levées de fonds, mais aussi préparer, comme, les ateliers, trouver l'espace. Cette année, on a dû trouver un nouvel espace, faire des demandes de subventions, comme dans les différentes assos, dans les différents endroits et tout. Puis juste l'organisation, comme... général. Puis donc ensuite, après décembre, janvier, à cause des vacances, des fêtes et tout, genre après, c'était à chaque semaine, puis ça roulait un peu. Donc en fait, comme sur le collectif, c'est plus un truc organisationnel, comme vraiment genre, on a besoin d'un espace, combien de trucs on fait, plutôt que le processus, en fait, ou en tout cas, c'est comme comment je l'ai réfléchi après coup. Mais c'est plus, on est plus dans l'organisation, comme... vraiment pragmatique que dans le processus de est-ce que comme on est tous d'accord qu'on devrait faire les choses comme ça, ou genre est-ce que politiquement c'est notre vision des choses, en fait. C'est que c'est un peu... c'est que c'est intéressant, je pense. En fait, l'AEQS, ça fonctionne un peu comme Perversity, où on fait des, un appel. Quand on commence la première réunion, on fait un appel public comme ça. On fait un événement Facebook, on envoie des listes de courriels ou des gens qu'on connaît pour diffuser le message qu'on recrée, comme on commence à organiser la Radical Queer Semaine. Et donc, les deux, trois premières réunions, on les fait dans des espaces publics. Puis, à chaque semaine, on genre, publicise la date, l'heure, l'endroit pour essayer d'avoir des nouvelles personnes, en fait, parce que dans un QS, ça grossit toujours. Puis ensuite, après ça, comme on choisit, comme cette année, on s'est réunis au Touski la plupart du temps, qui est comme un café coopérative proche du métro Frontenac. On se réunit toujours le dimanche, donc c'est là qu'on se réunissait le plus souvent. Au début, on fait la publicité, puis après, ben, comme après un mois, deux mois, comme septembre, octobre, on a arrêté de publiciser, mais après, en janvier, il y avait un appel pour les œuvres artistiques, il y avait un appel pour les ateliers, en fait, où on demande aux gens de soumettre des ateliers. Puis en fait, on demande genre juste une fiche, puis qui est pas vraiment, c'est pas pour décider, c'est juste pour avoir un descriptif pour mettre dans le planning, pour que dès que l'horaire est fait, que les gens, tous les ateliers aient la même visibilité, en fait, et pas que comme, parce que t'as pas envoyé ta description avant, ton atelier est pas publicisé, ce genre de truc, en fait. Puis en fait, on refuse pas d'ateliers, à moins que ce soit comme des ateliers comme racistes, sexistes, ou genre qui prônent la violence de façon comme oppressive, comme qui est contre les gens et pas comme contre le système, ce genre de truc-là. Mais sinon, on refuse pas d'ateliers. La conférence d'ouverture est toujours comme politique, un sujet comme d'actualité. Comme la première année que j'étais allée, je pense que c'était sur le féminisme, mais aussi comme mes souvenirs, en tout cas, ça me semblait pas très féministe, mais bon. La deuxième année, c'était sur l'éducation sexuelle dans les écoles, parce qu'en fait, le programme d'éducation sexuelle au Québec a été, comme, je pense, depuis 2000... Ça fait au moins 5-6 ans qu'il n'y a plus d'éducation sexuelle dans les écoles secondaires, en fait. Et donc, l'idée de faire la conférence d'ouverture sur ça, c'était comme... pour, en fait, parler de ça, puis il y a différents groupes qui ont des initiatives, bien, c'est sûr que ça, c'est pas aussi grand que les cours obligatoires d'éducation sexuelle dans les écoles secondaires, en fait. Donc, c'est un peu sur ce sujet-là. Puis cette année, c'était sur la criminalisation à cause du gouvernement un peu, puis aussi à cause de la loi 110, puis aussi à cause de tout ce truc de sécurité, de garder la sécurité nationale. Et
la loi 110?
C10.
C10.
C'était pour avoir des peines minimales pour des infractions mineures, comme pour genre la possession de drogue, pour comme n'importe quoi. Donc en fait, ça fait juste qu'une personne comme qui n'est pas comme un criminel, si on veut, ou genre quelqu'un qui fait juste genre, prendre un truc dans un magasin, va avoir une peine vraiment lourde, alors au lieu de juste comme lui donner une amende de 100$. Puis comme la même chose pour la drogue, puis la même chose. Alors tu sais, ça fait juste criminaliser des gens qui sont pas comme dans le système criminel ou comme qui sont pas genre dans ces milieux-là, comme c'est pas des gens qui c'est comme monsieur madame tout le monde là qui va payer plus que genre les personnes qui sont dans les cages de rue ou comme qui sont genre louches dans la rue, tu sais, comme c'est vraiment plus préjudiciable à une personne, une adolescente qui comme pogne un truc dans un magasin que comme le voleur professionnel ou genre la personne qui genre vend de la drogue à ses amis versus la personne qui vend de la drogue à comme des enfants de 12 ans, c'est comme c'est vraiment plus préjudiciable à comme des gens qui font comme vraiment rien de mal, en fait, t'sais. C'est que donc c'est un peu pour ça qu'il y avait que le contexte était la criminalisation, en fait. Donc un peu comme la conférence d'ouverture est souvent comme politique, puis souvent comme dans le ce qui se passe dans le moment pour essayer de tout de suite réfléchir ou de commencer à genre poser ces questions-là. C'est souvent bien fait. Moi, je trouve que la conférence d'ouverture, absolument, c'est un bon moment, mais comme les autres ateliers, ça dépend, en fait, de ce qu'on reçoit. Il y a des ateliers comme de couture pour genre faire des vêtements de genre maintenance de perruques, ou genre des ateliers sur le BDSM, genre le polyamour, ou genre des ateliers comme ça. Dépend vraiment de ce que les gens soumettre, mais c'est toujours des thèmes un peu comme... Il y a toujours un atelier sur le VIH, le séropoint, il y a toujours un atelier sur le travail du sexe, il y a toujours des projections de films. Il y a toujours la soirée style de performance. Il y a toujours le Monster Ball, qui est comme le grand party de fermeture. Donc, tu sais, c'est un peu... Il y a toujours Robo Sounds aussi, qui est comme un party, une soirée musicale avec des artistes qui jouent à peu près une trentaine de minutes. C'est quand même une bonne visibilité. Mais sinon, comme les ateliers en soi, ça dépend vraiment de ce qu'on reçoit. Mais c'est surtout sur ces thèmes-là. L'ARQS, c'est quand même un espace de rencontre. Comme, je ne sais pas à quel point c'était fructueux, mais comme... Juste avoir l'espace, puis avoir comme cette possibilité, puis comme que différentes personnes qui nécessairement comme vont pas se rencontrer parce qu'ils vont juste à des ateliers en anglais ou parce qu'ils vont juste à des ateliers sur telle question, vu que c'est comme pendant 10 jours, ça permet à comme une plus grande variété de genres de circuler dans un espace, en fait. Puis aussi, c'est comme un moment vraiment concentré dans l'année. C'est que beaucoup de gens aiment ça, juste parce que c'est comme un moment concentré dans l'année, alors qu'aller voir des ateliers comme une fois par semaine, c'est pas aussi remplissant que comme 10 jours de queer.
Le collectif Politicu.
Ben, Politicu, c'est venu, je pense, en 2009, donc après la première Radical Queer Semaine, à laquelle j'étais pas, mais ça s'est créé après cette première édition. En gros, c'était un peu pour avoir une voix francophone du queer à Montréal, parce que la plupart des groupes queer sont anglophones. Tous les ateliers ou tous les festivals, tous les trucs se font beaucoup plus en anglais. Alors, c'est un peu de là que c'est parti, comme des personnes qui, dont la langue maternelle est le français, qui sont comme mobilisées là-dessus. Mais en même temps, c'est quand même toujours en collaboration avec genre, des espaces anglophones, parce que pour plein de raisons, mais c'est vraiment... Les réunions sont en français, les textes sont en français d'abord, avant d'être en anglais aussi. C'est un groupe politique sur les questions de genre et sexualité en général, mais surtout, avant, on travaillait beaucoup sur... mais les intérêts fluctuent beaucoup sur ce qui est dans le groupe et combien on est. Mais quand on était comme une vingtaine, genre on avait comme 4 commissions, donc une sur le travail du sexe, une sur le VIH, mais celle-là, c'est comme disparu. Mais principalement maintenant, on travaille sur les questions trans, en collaboration avec comme l'ADQ, par exemple, qui est l'Association des transsexuels du Québec, et des gens aussi comme de d'autres groupes qui ne sont pas nécessairement impliqués, mais comme qui veulent s'impliquer sur ces questions-là. Donc on a un peu comme une diversité de personnes, c'est pas juste les gens de Politicu. Puis aussi, sinon, on a le plan Q, qui est un peu comme un projet de faire des ateliers comme contre l'hétérosexisme féministe dans les cégeps, en fait, puis de parler de sexualité de façon positive dans les cégeps, puis mobiliser les gens, puis un peu comme faire que les personnes, genre, queer se rencontrent dans les cégeps, parce que, en fait, c'est toujours ça le problème, c'est que les gens se rencontrent pas, donc ils arrivent pas à créer des trucs dans leur milieu. C'est que le but, c'est de faire un atelier, puis de mobiliser que ces gens viennent voir l'atelier, comme ça, ça les met pas comme... on the spot, mais en même temps, ça permet de créer des liens et des alliances, en fait. En fait, comme je sais pas si on est très intersectionnel, comme... Et parce que de toute façon, RQS et Politicu, comme c'est à peu près les mêmes gens, comme sur toute l'histoire, il y a comme... C'est à peu près les mêmes gens, comme pas cette année, mais l'année passée, comme... Quand on était genre une dizaine, comme on a comme fait une pause de Politicu pendant toute la RQS, parce que comme on était tous investis dedans à différents niveaux à faire des trucs, alors c'était comme donc c'est à peu près les mêmes genres ou comme le même type de population, comme les gens sont amis, donc c'est à peu près comme un groupe assez similaire. Mais tu sais, comme je pense pas que les trucs sont positionnés de façon intersectionnelle ou que comme puis comme je disais, comme la plupart des trucs, c'est pas vraiment mon processus, mais plus dans comme « Ah, ce truc politique se passe, on doit le faire », plutôt que comme « est-ce qu'on inclut tout le monde ?» Est-ce que comme... Il n'y a pas comme d'espace de réflexion où comme la réflexion est vue comme un peu genre une perte de temps où on devrait plus comme faire de l'action, en fait. Mais en même temps, c'est comme si on s'éduque pas nous-mêmes, genre si on prend pas le temps de comme partager nos connaissances ou comme de... Peut-être que personne ne sait rien sur ce sujet, mais on pourrait comme, aussi trouver des moyens de tous essayer de découvrir ce sujet. Comme. Ben, j'ai un exemple concret en tête, c'est plus comme le STP 2012, qui est comme Stop Trans Pathologization. Puis en fait, en 2011, on avait fait un communiqué de presse conjoint avec la TQ, en fait, sur la question de la dépénalisation, surtout qu'on venait juste de faire l'action sur les droits trans où on comme, demandait, une de nos revendications, c'était que plus de professionnels de la santé puissent donner les lettres, en fait, pour que les gens puissent plus facilement avoir accès aux hormones, aux changements de nom et tout ça, en fait. Même si, comme, idéalement, c'est pas idéalement ce qu'on voudrait, mais comme, c'est ce qui, si c'était gagné, aurait un impact beaucoup plus grand sur la plupart des gens, en fait. Donc ça, c'était une de nos revendications. Puis cette année, en fait, comme rien s'est passé là-dessus, donc j'ai essayé de mobiliser un peu les gens, comme on peut pas, genre, faire deux actions sur ce sujet, puis la troisième année, comme, le silence, c'est comme, on peut au moins écrire une lettre, au moins, comme, faire un petit truc minuscule, genre, juste pour dire qu'on est toujours là-dessus, on est toujours sur cette question-là, comme politiquement, c'est impossible de pas en parler, parce que ça fait quand même 2 ans que t'en parles, en fait. Puis, donc, c'est ça, mais en même temps, c'est comme, il y a comme la différence entre la dépathologisation et la dépsychiatrisation, et comme, qu'est-ce que ça voulait dire, et comme, et tout ça, en fait, c'est comme des débats comme, super intéressants, mais comme qu'on n'a pas eu, parce que tout le monde était un peu comme, ah, oh, mais on sait pas exactement c'est quoi. Mais en même temps, tu sais, on aurait pu faire des, te dire, ah, oh, on se prend une fin de semaine, ou comme, on se prend un moment, puis on, chaque personne fait des recherches, puis on remet tout ensemble, puis on essaie d'en discuter. Mais, comme, ça s'est pas fait. Puis finalement, on a juste, comme, refait le, un communiqué de presse, comme un peu similaire à celui qu'on avait fait avant. Mais après 2 ans de travailler sur cette question, comme il n'y avait pas de nouveaux éléments ou comme d'approfondissement des réflexions ou ce genre de trucs-là, c'est un peu ça que je veux dire par comme, c'est plus dans le concrètement, on doit faire une action plutôt que dans comment on le fait, à quoi ça devrait ressembler, c'est quoi nos objectifs, qu'est-ce qu'on voudrait, comme, à quoi ça ressemblerait un succès comme partiel ou comme un truc du genre.
Expérience aux universités d'été euroméditerranéennes des homosexualités à Marseille.
Rétro-prospectivement, comme les UA, c'était vraiment nourrissant. Sur le coup, c'était un peu stressant, mais effectivement, ça m'a comme rendu plus critique en fait du queer maintenant, comme à Montréal, ce qui est vraiment bizarre. C'est sûr que c'est différent d'un QS, vu que comme tu dors là, donc c'est plus comme 24 heures de que tu passes avec les gens, puis aussi comme la cuisine collective, mais tu cuisines parce que tu vis là. C'est que ça aussi, genre, la cuisine collective, c'est sur mon étage, c'est vraiment comme super, puis comme ça permettait aussi beaucoup de discussions, beaucoup de temps, beaucoup de trucs qui est comme différent de la QS, vu que à la QS, t'es quand même comme, encore dans la vie de tous les jours. T'es comme dans la même ville, t'es dans la même... Mais t'es surtout vraiment encore dans la vie de tous les jours, t'es comme... pendant la journée, peut-être que tu travailles ou tu vas à l'école, ou tu dois faire des trucs de ta vie de tous les jours, même si t'as pris congé, tu dois comme, continuer à faire tout d'abord. Ou genre, continuer à faire des trucs que tu fais tous les jours hors RQS, en fait. Donc c'est... Même si c'est comme... Ben, RQS, c'est comme plus une bulle mentale qu'une bulle comme physique, alors que les UA, c'est comme les deux. Puis aussi, je pense qu'il y a comme, beaucoup de différences comme... De groupe, tu sais, comme je pense que le fait que le queer en France s'appelle transpédiguine, ça met en lumière beaucoup de trucs. Tu sais, puis c'était un peu drôle parce que, genre, la plupart des gens avec, comme, sur mon étage et avec qui je parlais beaucoup étaient comme des gars gays, mais ou genre des PD, comme vous dites. Mais en tout cas, ouais. Puis c'était drôle de voir, comme, un peu ces trucs de genre, ah, là, comme, comment ils avaient plus conscience ou comme, ils explicitaient tout le temps le fait qu'ils étaient des hommes, qui est contrairement à Montréal. Le rapport de pouvoir que ça pouvait créer. Et c'est un peu intéressant de voir, ah oh ouais, ok! De voir ça comme explicité, comme souvent. Puis aussi de voir qu'il n'y avait pas juste des gays, qu'il y avait aussi des lesbiennes, qu'il y avait des trans. Mais il y a des trans dans le. En Montréal, mais il n'y a pas comme. Par exemple, il n'y a pas de femmes trans. En genre, 3 ans, aucune femme trans. Ah, genre, sur le bénévolat. Tu sais, il y en a comme peut-être 2-3 qui viennent, genre, par truc, mais aucune s'implique sur le bénévolat ou sur le... dans les soirées ou comme sur le collectif ou comme ce genre de truc-là. C'est, tu sais, ça aussi, ça pose des questions de pourquoi 2 nouvelles personnes viennent comme qui connaissent personne, tu sais, puis on est tout aussi gentils. Pourquoi est-ce que y a juste un seul type d'identité qui s'implique à la fin de la semaine, que c'est ces personnes-là que tu revois et pas... certaines personnes d'autres. en fait. Puis aussi, comme, de un peu découvrir la culture lesbienne aux UH, c'était cool. Qu'il n'y a pas ici, en Montréal. En tout cas, ouais. Il n'y a pas... Mais il y a aussi, tu sais, comme, il y a aussi un truc identitaire différent. Comme, par exemple, ici, on a des genderqueer qui est, comme, moins présent, comme, dit différemment aux UH. Alors, ça crée aussi un... En fait, une de mes amies, genre, celle avec qui j'allais aux UH la première fois, on avait cette discussion, en fait, il y a deux jours, de comment, comme, on parlait de, comme, la disparition de la butch dans les espaces queer, puis de comment, genre, en fait, si on alignait toutes les personnes qui s'identifient comme genderqueer et toutes les personnes qui, genre, c'est des personnes qui, en fait, pourraient s'identifier comme butch ou comme lesbienne dans les deux cas, mais qui, en fait, choisissent de s'identifier comme genderqueer, ça fait aussi, comme, un gap de culture, où ça crée un autre truc, mais là, tout disparaît, en fait. Et là, c'est comme, est-ce qu'il n'y a plus de butch parce que, genre, tout le monde est genderqueer, ou, genre, c'est juste parce qu'elles sont parties, comme, parce que c'est pas un espace qui les intéresse d'investir, puis comme, tu sais, les butch, mais aussi, genre, les lesbiennes en général, aussi, mais...
Milieu queer et confrontation des normes intracommunautaires, l'exemple du Sefer Sex.
Ouais, ben en fait, ça m'a fait comme réaliser à quel point c'était comme un truc de... que c'était vraiment centré sur comme une culture d'homme gay comme radicalisée. Comme c'est pas que c'est pas radical, c'est juste que c'est basé sur des normes d'homme gay comme si, genre, on invisibilisait comme l'histoire lesbienne, en fait. Puisque pour moi, genre, tu sais, comme le queer, c'est un peu un truc de... des personnes radicales dans LGBT qui se réunissent dans un autre espace parce qu'elles rejettent certains trucs de leur, comme, pas assignation identitaire, mais un peu comme leur catégorie dans l'acronyme LGBT, en fait. Mais en fait, quand tu te retrouves dans toutes ces personnes qui rejettent ces normes, la norme qui devient dominante, c'est comme la radicalisation des normes d'hommes gays, en fait. Puis ça crée comme une invisibilisation, bon, en tout cas pour moi, ça crée une invisibilisation comme de la culture lesbienne, comme de qu'est-ce que ça aurait pu ressembler si ces personnes avaient radicalisé ces mêmes points, en fait. Puis genre, c'est plus ça, en fait. C'est comme, pourquoi est-ce que la sexualité radicale, c'est comme le sexe anonyme, ou genre, pourquoi, qui est comme vraiment, genre, le sexe anonyme, public sexe, c'est des trucs d'hommes gays, c'est comme, historiquement, genre, c'est comme une radicalisation de cette histoire-là, mais comme, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une radicalisation ou comme une création différente, genre, chez comme les lesbiennes, genre, chez les trans, comme, pourquoi est-ce que c'est pas... présent, et qu'en fait, pour être radical, il faut comme adopter ou réfléchir par rapport à ces normes-là, en fait.
Qu'est-ce que c'est, sexualité anonyme?
Mais comme un peu genre le sexe anonyme dans les toilettes, ou genre dans les parcs, ce genre de trucs-là. Ou comme, ben là, il y a les saunas, ce genre de trucs. Ouais. Mais il n'y a pas comme ça. Il y a des réflexions par rapport à ces choses-là, puis comme aussi les réflexions, par exemple, sur le safer sex. En fait, mais ça, c'est un exemple. Un bon exemple, en fait, de ce que je veux dire par des normes d'hommes gays. Donc, en fait, après Against the Wall, qui est comme le sex party, il y a une des personnes qui a écrit au collectif parce que elle dit, ah, j'ai vraiment adoré le party, mais j'ai vu beaucoup de personnes qui avaient du sexe pas non protégé, puis qu'il n'y avait pas beaucoup de kits de safe sex. Et donc là, en fait, ça a créé comme de l'hystérie, littéralement de l'hystérie sur la liste. Parce que en fait, comme la plupart des personnes qui genre vocalement disent qu'elles ont des ITS, c'est des personnes, c'est des gars gays, séropositifs, et donc qui réfléchissent sur ces questions-là, sur des questions d'hommes gays séropositifs, dans cette histoire de sida, d'hommes gays séropositifs. Puis par exemple, la soirée Femmes Plus, c'était comme la première fois de toute ma vie que je voyais des femmes séropositives, que vous genre que c'était réfléchi de cette manière-là, parce que c'est toujours un peu, parce que dans la culture d'hommes gays, il y a le barebacking.
Barbacking.
De ce que j'en comprends, c'est comme quand t'as du sexe non protégé. Mais en gros, c'est comme. Apparemment, il y a des grandes théories philosophiques là-dessus par rapport à Foucault et le post-bareback, mais en tout cas. Mais en gros, c'est ça. Donc, c'est un peu cette idée que, comme si tu décides d'avoir du sexe non protégé, comme tu négocies le risque de possiblement avoir le VIH ou pas. Comme, en tout cas. Et donc, ils sont un peu dans cette culture où, genre, tout sexe non protégé, c'est parce que. Ta conscience, et tu réfléchis, t'as ta propre t'es ta propre personne et comme tu décides des risques que tu prends. Et donc, tu sais, ils sont un peu dans ce truc-là où, comme, si tu décides d'avoir du sexe non protégé, c'est nécessairement parce que t'as réfléchi et que, comme, t'es ta propre personne. Mais, comme, tu sais, moi, personnellement, je trouve ça très difficile, comme, de comment est-ce que tu peux réfléchir sur ça? Tu sais, c'est comme, tu sais, genre, c'est pas, tu réfléchis pas sur la maladie ou, comme, sur ton état de santé de la même manière si t'es malade ou pas malade ou genre... C'est comme, c'est vraiment pas le même truc. Donc là, sur la liste, les gens étaient vraiment comme outrés que comme quelqu'un puisse oser dire ça, puis comme les personnes sont leurs vraies personnes, puis ils puissent comme réfléchir. Puis en fait, tu sais, dans ma tête, c'est comme, bon, peut-être que genre, tu sais, c'est un truc d'un gay, puis genre le barebacking, puis comme, tu sais, je comprends pas tout, et genre, je sais pas tout les subtilités qu'il y a là-dedans. Tu sais, c'est plus des comme discussions informelles que j'ai eues avec des gens. Mais genre, tu sais, j'ai fait un test, tu sais, je me suis dit, mais... Les gens qui sortent pas avec des hommes gays, genre, c'est pas une discussion. Personne négocie de risque. C'est juste comme. Il n'y a pas de safe sex. C'est pas une discussion. C'est pas comme personne. C'est pas que les gens décident de pas l'utiliser ou comme décident de pas, genre. Comme décident qu'ils prennent le risque. C'est juste que les gens sont comme, ben, pourquoi je ferais ça? C'est surtout ça. Donc, j'ai fait un test. Puis, comme. Donc, là, genre, sur Facebook, le jour même, genre, je parle à comme deux personnes. Qui s'identifie comme lesbienne ou comme bisexuelle, puis je suis comme, alors, est-ce que pour toi, le safe sex, c'est un truc, c'est un truc important chez les lesbiennes? Est-ce que tu penses que c'est un truc qui devrait être réfléchi ou parlé? Puis c'est comme, non, ça nous concerne pas. Puis genre, tu sais, c'est pas des gens qui sont dans des, non plus dans des relations monogames, mais genre, c'est des gens qui ont comme toutes sortes de relations. C'est dans un contexte où la question du safe sex devrait être réfléchie, parce que c'est comme si t'as plusieurs partenaires ou comme... T'as pas des partenaires réguliers, c'est quelque chose que tu devrais comme au moins réfléchir pour savoir genre qu'est-ce qui te rend confortable, qu'est-ce qui te rend moins confortable et comme comment tu veux vivre ta sexualité en fait. Alors tu sais, c'était quand même choquant que genre ces personnes soient comme non, c'est pas un truc genre c'est pas important, comme c'est pas un truc qui concerne les lesbiennes. Alors tu sais, comme c'est un peu ce clash de culture où comme d'un côté t'as genre ce truc d'hommes gays qui sont comme mais non, tu peux réfléchir, tu peux prendre le risque, versus comme cette culture non d'homme gay où comme c'est pas un truc où c'est pas discuté, qui fait que comme c'est dur d'avoir des conversations parce qu'en plus en même temps c'est comme il y a un peu ce rapport de pouvoir de des personnes séronégatives qui essaient d'expliquer une personne séropositive que genre non, mais en même temps c'est pas ça que tu essaies d'expliquer. Et puis en fait ça crée ce truc pour moi, genre ce que ça crée aussi c'est que ça fait que beaucoup de personnes ils, comme elles ont négocié un peu leur sexualité par rapport à comme pas avoir trop de partenaires, être propre, puis ce genre de truc là. Puis ça fait aussi un contrôle des gens et comme de genre avec qui tu couches, genre ah, cette personne est sale ou genre ah, cette personne a couché avec trop de gens. Donc ça crée aussi ce genre de truc-là. Donc tu sais, c'est comme, même du point de vue comme simplement des femmes séropositives, c'est comme, t'as une personne qui est comme, moi je suis safe, moi j'ai rien eu. Toi, t'es une bombe bactérielle, genre t'es dangereuse. Tu sais, puis alors qu'en fait, c'est le contraire, c'est cette personne qui dit qu'elle est safe, qui connaît pas son statut, qui risque de donner à la personne séropositive qui connaît son statut une autre ITS. Et donc, c'est elle qui est plus dangereuse que la personne séropositive. Comme c'est comme une situation inversée où c'est comme... C'est toi qui mets... C'est la personne séropositive qui négocie son risque d'attraper une autre ITS et pas toi. Genre, c'est pas comme... C'est pas un truc de je négocie d'avoir... de possiblement être exposé VIH. C'est la personne séropositive qui négocie de peut-être attraper quelque chose d'autre. Parce que la personne ne connaît pas son statut, parce qu'elle dit qu'elle est safe, parce qu'elle dit que genre, moi je fais attention et comme, je choisis les personnes avec qui je couche. T'sais, comme c'est vraiment un truc totalement différent. Et donc c'est dur d'avoir ce genre de discussion parce que c'est comme pas genre la même culture, pas dans les mêmes espaces, pas dans les mêmes comme réalités. Alors c'est comme, oui, les gens peuvent décider de prendre le risque, mais c'est pas vraiment la même chose.
Dissension entre queer et féministe.
Oui, comme il y a ce truc de genre, si t'es queer, tu es nécessairement féministe parce que le queer ça vient du féministe. Comme tu sais, c'est comme genre se brosser les dents sans pas dentifrice, comme ça fait pas de sens. Comme genre, je veux dire, tu peux, mais comme ça fait le même effet quand même. Mais en même temps, c'est comme un peu un truc, genre... Ouais, on est féministe, comme, de facto, tu vois, parce qu'on est queer, parce que ce serait, comme, pas tenable, logiquement, théoriquement, politiquement, éthiquement, de toute manière possible, de dire que t'es queer sans être féministe, mais en même temps, c'est pas un truc qui est comme discuté, et puis aussi un peu ce... Mais c'est comme, il y a des raisons pourquoi c'est, parce que genre, par exemple, les espaces féministes, surtout à Montréal, il y a beaucoup d'espaces féministes qui sont un peu comme centrés sur une, comme une identité cisgenre, qui sont pas genre super accueillants pour les personnes trans. Il y a ça, il y a comme, il y a ça, comme structurellement aussi, qui est comme problématique, qui est très différent de, des UH, qui étaient comme vraiment genre, oh mon dieu, des féministes pas transphobes, waouh! C'était quand même, parce que non, à Montréal, il faut quand même genre, c'est comme, voir, tu sais, c'est un peu comme le test de l'eau, tu vois, où genre, t'es comme, est-ce que t'es transphobe? Non. Ah, peut-être un peu, oui, non. Alors qu'aux UH, c'est vraiment un truc comme vraiment ouvert, vraiment plus... Ou comme les questions trans, genre, étaient vraiment explicitées, alors que dans la plupart des espaces féministes que moi j'ai vu comme c'était pas le cas. Donc, tu sais, il y a ce problème. Mais en même temps, ça excuse pas le fait que personne réfléchisse sur les questions féministes dans des espaces queer, comme pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'atelier féministe à la Radical Queer Semaine? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'atelier comme trans à la Radical Queer Semaine, genre... Alors que, comme, ça devrait être des sujets, comme, criants, parce que beaucoup de personnes viennent de ces espaces-là ou, comme, réfléchissent sur ces questions-là, comme, à cause de leur identité, à cause de plein de trucs. Mais, en même temps, c'est pas des trucs qui se passent, en fait. Alors, c'est pas tellement que les queers devraient investir les espaces féministes puis essayer de, comme, parler de transphobie ou, comme, parler du queer et, comme, qu'est-ce que ça peut apporter au féminisme, mais c'est, comme, pourquoi est-ce que... Comme, quelle raison explique qu'il y a aucune réflexion féministe dans les espaces queer, en fait. Puis comme, tu sais, je sais pas exactement pourquoi, mais comme, je pense qu'une des raisons, c'est parce que c'est comme dominé par des hommes gays et que comme, ils ont pas le même rapport au féminisme. Ou il y a ce truc de genre, oh, on n'est pas légitime parce qu'on n'est pas des femmes, ou genre... Mais en même temps, c'est comme, si t'es féministe, tu devrais comme réfléchir au féminisme en mixité, c'est possible, surtout dans des espaces queer où c'est comme, si des gens sentent le besoin de créer une non-mixité, ils peuvent le faire, mais comme, c'est pas parce que tout le monde est là, ou c'est en mixité qu'il ne devrait pas avoir de réflexion là-dessus. Puis, pour une raison que j'arrive toujours pas à identifier exactement pourquoi, comme ça marche pas. Comme en fait, pour les états généraux du féminisme, il y a un peu ce truc de la FFQ, ou comme de réfléchir sur les 30 dernières années du féminisme au Québec, sur les moments historiques importants, sur qu'est-ce qui s'est passé. Comme ils ont envoyé le document comme, où, en fait, le but, c'est que tu vas... Un document où tu fais un atelier dans ton asso avec un groupe de gens de ta communauté, puis ensuite, vous renvoyez vos réflexions aux états généraux, puis où, après, vous êtes invité, en fait, au colloque pour entendre les discussions que les autres gens ont eues et que, comme, partager, en fait, continuer à discuter avec toutes les autres personnes qui ont fait le même processus. Puis, en fait... Même si la plupart du temps, comme quand un courriel est envoyé, si les gens répondent pas, c'est parce qu'ils n'ont pas envie de répondre. Parce que les gens répondent toujours, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Comme, même s'ils sont super occupés, même si comme, il n'y a aucune raison pourquoi ils n'auraient pas répondu. Et quand le kit pour les états généraux est envoyé, ça a été comme le silence mort. Et tu sais, comme, le truc, c'est qu'il y a des problèmes structurels, par exemple, comme le fait que la plupart de ces groupes comme que Politi et genre le RQS ont beaucoup d'hommes gays, ça fait que comme en gros tu peux pas envoyer un homme gay genre aux états généraux parce que s'il y a de la non-mixité, il n'aura pas accès à ces espaces, sa parole est moins comme, il aura moins de temps de parole, donc c'est comme si c'est la seule personne qui pourrait représenter le queer, comme on est un peu dans la merde, parce que genre pour plein de raisons, comme cette personne n'aurait pas accès à des espaces, donc là ça veut dire que la représentation repose sur un petit nombre de personnes, genre 6 personnes, mais en même temps, c'est comme si ces 6 personnes-là ne sont pas motivées à aller comme représenter, parce que c'est clair que l'atelier se fera en comme, mixité avec toutes les personnes qui viendraient, mais c'est comme si ces 6 personnes ne sont pas motivées à aller puis comme à faire un travail de comme, représentation, retour au groupe et tout, pour justement que, et avoir accès à tous les espaces possibles, puis genre vraiment comme... retenir toutes les réflexions féministes puis se dire comme qu'est-ce qu'on en pense en tant que queer, qu'est-ce qu'on a envie de dire, genre c'est quoi nos critiques, c'est quoi comme qu'est-ce qu'on trouve intéressant là-dedans. Mais si ces 6 personnes-là n'ont pas envie de le faire, comme ça va pas marcher en fait. Puis comme tu sais, j'ai essayé de voir si des gens seraient intéressés, mais comme les gens ont plus cette relation comme amour-haine avec le féminisme, ou comme le féminisme est vu surtout comme le mouvement des femmes et genre les questions de femmes et tout, et où genre d'autres questions sont évacuées. Mais tu sais, c'est aussi propre au féminisme, ou comme par exemple pour moi, genre si comme j'étais pour investir un espace féministe, la première chose que je ferais, c'est comme investir les espaces comme non mixtes lesbiennes, puis ensuite voir, ensuite leur dire est-ce que le queer ça vous intéresse, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous en pensez pas. Mais le truc, c'est que dans la plupart des espaces féministes, ces espaces n'existent pas. Alors c'est comme, qu'est-ce que... comme, des féministes straight, comme... je m'en fous de qu'est-ce qu'elles pensent du queer, comme... c'est genre vraiment trop loin de la réalité pour, comme, avoir un premier, comme, échange là-dessus, en fait. Alors vu que ces espaces-là n'existent pas non plus, alors tu sais, ça crée comme aussi un truc de... waouh, on est comme vraiment, vraiment loin, là. On n'est pas comme juste dans l'orientation sexuelle, dans genre, c'est, qu'est-ce que ça veut dire? On est comme vraiment dans... on est comme encore plus... il faut aller comme encore plus loin, comme passer la barrière de comme LGBT mainstream, puis ensuite aller dans pourquoi le queer, c'est... qu'est-ce qui est radical, genre, qu'est-ce qui est différent, comme pourquoi on est contre certains trucs, pourquoi on questionne certaines choses. Alors, tu sais, il y a aussi cette barrière-là, mais en même temps, c'est comme... si genre les 6 personnes qui sont pas des hommes gays ne veulent pas le faire, comme ça va pas marcher. Puis si les hommes gays veulent pas comme faire d'ateliers sur le féminisme, ça va pas marcher non plus. Pour genre, vu que c'est comme les gens de la communauté, genre les gens qui organisent des trucs, alors c'est comme si des deux bords ça marche pas, ça tue le, toutes les discussions possibles sur le féminisme en fait.
Interview et prise de son réalisée par Charlotte, LOL et Marie. Montage de LOL et Jules. Jingle composé par Jojo. Commentaires de Jules. Merci à toutes et merci à Valérie Simon pour sa participation.